Chronique d'un nouveau monde numéro 28, le 15 novembre 2023. Préparons-nous au voyage final. Et la divulgation extraterrestre, vérité cachée et hypocrisie?
En conséquence de l'impact de l'onde sur notre planète, ceux parmi les humains qui s'étaient assidûment préparés seront bientôt capables de commencer à explorer les mondes au-delà de la mort et au-delà de l'astral, pourvus d'un nouveau vaisseau corporel, c'est-à-dire d'un nouveau corps, ou alors grâce à un nouveau vaisseau non corporel que, faute de connaissances à ce propos, nous appelions OVNI. Avec ce corps ou ce vaisseau moins matériel et moins dense que les objets de troisième densité, une sorte de double atomique du corps mais plus éthéré, modelé par des neutrinos de l'âme-esprit et pourvu d'une conscience supérieure, ces humains se verront alors accomplis en tant qu'individus de la sixième race, explorateurs du temps, l'homme nouveau. Cet homme nouveau pourra choisir d'explorer les mondes de façon consciente, non seulement avec un corps semi-physique, mais carrément avec son périsprit, autrement dit, un vaisseau de plasma semi-matériel créé directement par l'esprit. Cet objet ou ce vaisseau périsprit non corporel pouvant prendre forme et consistance rien que par la force de l'esprit et que l'humain confondait souvent avec les ovnis ou les boulons sera adapté à explorer les civilisations, les planètes ou les nouveaux univers dans d'autres espaces-temps. Et comme les Namlous, qui grâce à leur potentiel sexuel tripolarisé possèdent la faculté de se densifier ou de se manifester instantanément dans les mondes matériels sous l'apparence d'individus masculins, féminins ou intergenres, les individus de cette sixième race pourront explorer les différentes civilisations terrestres et extraterrestres. Ils n'auront plus à subir la reprogrammation génétique matricielle terrienne durant le processus de réincarnation par lequel l'humain d'avant se voyait effacer toutes ses mémoires. Ils quitteront donc eux aussi leur troisième densité terrestre pour migrer vers un niveau supérieur d'existence, devenant ainsi un néo-foyer de réalité, un nouveau monde terrestre de quatrième densité, matérialisé par l'esprit, exactement comme l'avaient réalisé les Namlous en leur temps. Rappelons que les Namlous étaient cette race d'humains prodigieuse, primordiale et androgyne, gardienne de la Terre, et créée il y a des millions d'années par les planificateurs Kadistou. Nous comprenons désormais que les boucles temporelles se succédant, après une première extinction du génome Homo erectus, les femelles Lysi, des êtres galactiques originaires de la galaxie d'Orion, étaient en charge de l'assemblage du génome de l'Homo sapiens sapiens d'aujourd'hui. Complètement assujettis aux dieux Lysi du clan Dan, Yahvé, Jéhovah, Allah, qui s'était présenté à lui comme les dieux créateurs des grandes religions monothéistes, cet Homo sapiens sapiens moderne leur avait servi d'agent exécutant en troisième densité, de portail organique ou de véhicule pour leur esprit reptilien. Autrement dit, le corps humain leur servait de réservoir génétique sans réelle conscience supérieure, puisqu'il avait été complètement déconnecté de l'esprit par le mécanisme de la réincarnation en troisième densité sur Terre. Aussi, certaines femelles Lysi, qui dans leur futur choisiront de rejoindre le clan des planificateurs en semenceurs de vie, afin de servir l'évolution terrestre et augmenter la dynamique de conscience de l'humain, modèleront des individus dotés de la génétique Christos, afin qu'ils redeviennent susceptibles de se reconnecter à leur soi supérieur esprit et qu'ils puissent également servir de véhicule d'incarnation en troisième densité pour elles-mêmes et pour d'autres esprits créateurs. L'objectif de cette adroite manœuvre sera tout bonnement d'élever la fréquence vibratoire des plans astraux de la troisième densité terrestre. Ce sont donc eux, c'est-à-dire les humains du futur dotés d'une conscience christique évolutive, qui deviendront, comme les Namlous l'avaient été en leur temps, les nouveaux gardiens vivants du savoir de notre univers. Ils seront les néo-dépositaires de l'ADN des races animales et humaines modernes, dont les codes génétiques avaient été utilisés afin de créer la vie sur Terre dans les mondes contemporains de deuxième et troisième densité. Toutefois, cette nouvelle race humaine inclura cette fois-ci dans son génome la génétique activée de ces reptiliens Amasutum, ce qui n'était pas encore le cas lorsque les Jinabul, les Anunnaki Lysi, avaient colonisé la Terre en vue de créer la première race Homo sapiens sapiens. Ainsi, comme son ancêtre Namlou, l'homme nouveau sera également capable de se constituer un corps éthérique multidimensionnel immortel ou un vaisseau transdimensionnel afin d'explorer les innombrables mondes présents dans l'univers.
Question à l'ange. L'existence des reptiliens Lizzie, des Anunnaki, des Néphilim, etc. est souvent considérée comme une théorie du complot. Nous savons toutefois que derrière tout principe conspirationniste se cache souvent une vérité. Alors où se logerait-elle ?
Les gens ignorants qui considèrent les Lizzie comme des êtres exclusivement malfaisants pourraient effectivement concevoir leur existence comme une théorie complotiste. Mais pourquoi y aurait-il complot à ce niveau s'il n'y avait réellement rien à cacher ? Ce qui réfute l'existence des Lizzie reste tout simplement dans l'ignorance et le déni de la réalité telle qu'elle est. Et elle ne peut que rester cachée, puisque les humains ordinaires sont foncièrement incapables de concevoir leur existence et de comprendre leur rôle. Il existe une multitude de mondes dans le cosmos, peuplés par des races humanoïdes humaines et non humaines. Sachez toutefois que les individus qui complotent de la sorte sont eux-mêmes investis de l'esprit prédateur qui les font persister dans le déni de la nature d'eux-mêmes et de l'essence même de leurs ancêtres. Ce cycle de l'humain terrestre multitraumatisé touche à sa fin, mais l'homme n'aura jamais à affronter une extraordinaire quelconque civilisation extraterrestre. Il sera confronté qu'à lui-même et à ses altères du passé ou du futur. Cette vérité a toujours été cachée par l'état profond derrière la pseudo-divulgation OVNI pour préserver les intérêts de son complexe militaro-industriel, puisque les Lizzie existent depuis des millénaires sur votre planète. Ces humanoïdes Lizzie reptiliens avaient entamé une prise de contrôle de l'humanité depuis la création des premiers pouvoirs monarchiques et avaient déjà exercé leur influence au moment des très anciennes dynasties égyptiennes et sumériennes. Leur système de pouvoir actuel est né au Moyen-Orient et en Europe et s'est propagé par la colonisation jusqu'aux États-Unis, pays par lesquels les Lizzie reptiliens ont fait naître leur influence à travers le Nouvel Ordre mondial en Occident. Ceci grâce à l'industrialisation, la technocratisation et la militarisation de l'OTAN et par les nombreuses manipulations exercées par les USA via la NASA, la NRO, la NSA, la CIA, opérant dans de nombreuses parties du globe. L'histoire de la puissance occidentale reste donc dans les faits l'histoire de la prise de contrôle reptilienne des États-Unis, puis le retour de ce contrôle et sa réexpansion par la guerre vers le Moyen-Orient et l'Europe. Boucle karmique oblige. En effet, elle se révèle concrètement comme un conflit transdimensionnel utilisant l'homme ordinaire comme chair à canon dans une guerre qui, sans aucun doute, oppose plusieurs factions reptiliennes, Dracos, Nusgir, Kingu, etc., dans l'objectif de contrôler les portes interdimensionnelles d'Ukraine, de Syrie, d'Iran, par lesquelles débarquent actuellement de nombreux hybrides Anunnaki Néphilim. Même si, tout comme vous, ils sont originaires de la constellation d'Orion, les Lizzie reptiliens ne sont pas précisément des extraterrestres tels que vous l'entendez. Certains parmi eux sont vos ancêtres ou vous-même dans le passé futur. Ils sont tout bonnement des entités établies dans les hyperdimensions terrestres de quatrième densité, capables de polymorphisme et de pluridimensionnalité. Vous devez donc désormais concevoir que du temps des dinosaures et de ces reptiliens Anunnaki humanoïdes, les Namnu, c'est-à-dire les humains originels, même s'ils étaient nettement plus en contact intime avec leur esprit créateur, possédait un corps bien plus grand et massif que celui de l'humain d'aujourd'hui. À l'arrivée des Lizzie qui ont capturé certains d'entre eux afin de modifier leur génome, ces entités reptiliennes leur ont façonné un corps émotionnel à leur image. En même temps, ces captifs dotés d'une génétique modifiée développaient un cortex reptilien, la zone de réflexe dans le cerveau, concepteur de la peur, puis responsable de la culpabilité et de tout le spectre de réflexes émotionnels propres à l'humain moderne, tels que la honte, la fuite, le dégoût, la colère, la tristesse, mais aussi la surprise, la joie, la confiance, l'anticipation, tout un équipement émotionnel qui a piégé ces Namnu dans les fréquences astralisées de la planète Terre. En ces temps-là, la génétique de beaucoup d'entre eux ayant été complétée ou en grande partie remplacée par celle des Lizzie, leur faculté de créateur et leur rôle d'observateur-explorateur du monde avaient grandement été altérés. Leur don d'observateur neutre et leur absence d'émotionnel découlant de cette capacité d'observation avaient purement et simplement été remplacés par l'émotionnel réflexe de l'ego saboteur reptilien. Dès lors, cet émotionnel reptilien, qui chez l'humain s'exprimait par des réactions psychologiques, physiques et hormonales spécifiques lors d'événements extérieurs propres au monde de troisième densité astralisée et à la fréquence plus basse de sa matière, a contraint l'énergie du psychisme féminin de cet humain modifié à répondre, à se débattre en lui-même pour se défendre de ce monde des apparences extérieures, l'illusion, en apprenant à libérer ce trop-plein émotionnel par les larmes. Cet émotionnel réflexe ou égo saboteur, induit par l'esprit prédateur reptilien, produisait graduellement des manifestations physiologiques et chimiques internes, stress hormonal et réponse énergétique, générant ensuite sur le plan physique une réaction, réponse au stress. Cette réaction pouvait se manifester sous la forme de maladies, de symptômes physiologiques, menstrues douloureuses chez les femmes, d'accidents quotidiens en tout genre, voire de conditions météorologiques extrêmes, orages et tempêtes, se matérialisant dans sa réalité. Toutes ces extériorisations étaient provoquées par l'agitation du flux d'énergie électromagnétique émanant de son psychisme. C'est ainsi que les Namlous, ces géants de la préhistoire restés en captivité sur Terre, ont au fil du temps et des réincarnations été dépossédés de leur génétique originelle et légitime. Ils étaient alors devenus des humains esclaves de la matière et de l'astral. Dans la psyché de certains humains contemporains descendants du peuple Namlou, les manifestations physiologiques et chimiques dues à l'ego saboteur reptilien sont toujours provoquées par la confrontation à une situation donnée et par la configuration de leur cerveau reptilien qui interprète encore émotionnellement ce qu'il considère comme sa réalité. C'est notamment ce type de phénomène émotionnel qui les fait perdurer dans un espace-temps limité et prédéfini. Alors, pour en revenir à la faculté de voyager dans le temps, ce qui sera possible pour certains humains, vous avez tout d'abord dû réaliser l'importance de vous affranchir des fréquences de la peur, puis de l'illusion du temps, induite chez l'homme par son cerveau reptilien, pour vous libérer de ces fréquences astralisées. Et avant de pouvoir réaliser ce genre de voyage entre les mondes à travers leurs dimensions, certaines étapes devront être franchies. Tout d'abord, l'ego devra être amené à pouvoir concevoir puis accepter que grâce à la quête de cette connaissance qui protège, puis au développement de son intelligence et de sa conscience supérieure, l'homme de la sixième race se reconnectera peu à peu à l'esprit créateur afin de pouvoir rehausser les fréquences des mondes astralisés. Il sera alors amené à dépasser l'attachement, la culpabilité, la peur de la mort, voire la mort elle-même, qui ne sont que des programmes matriciels provenant des mondes astralisés pour ne plus être obligé de subir le processus de réincarnation. Il deviendra donc un Isbi, cet être immortel en mesure de voyager entre les différentes dimensions de réalité qui constituent notamment les mondes densifiés de troisième densité. Certains initiés appellent ces voyages entre ces mondes de troisième densité des transports séraphiques. Ce genre de transport séraphique avait déjà conduit les survivants de l'Atlantide à changer de dimension, puis de densité terrestre, pour parvenir à un lieu et arriver dans une bande de fréquences plus neutre et un futur plus propice à leur évolution. Ce genre de voyage séraphique sera bientôt proposé à ceux qui seront parvenus à se libérer de leur émotionnel, les piégeant encore dans des fréquences du monde astralisé actuel et dans lesquelles vient officiellement d'éclater la Troisième Guerre mondiale avec ses menaces extrêmes de conflits nucléaires.
Question à l'ange. Ce voyage séraphique est-il déjà planifié par nos consciences supérieures et serons-nous conscients durant notre déplacement dans l'espace-temps? Ces déplacements de population sont-ils également accomplis par des engins de type Omni, tous les boulons?
Rien n'est encore planifié parce que ces déplacements n'ont pas besoin d'être planifiés. Ils auront lieu instantanément et généralement pendant votre sommeil, lorsque vous serez vibratoirement prêt à les vivre et à les supporter psychiquement. Toutefois, vous n'en serez que très peu conscient, puisque l'environnement familier que vous lisez encore à travers votre conscience limitée, lui aussi subira un déplacement dans le temps et changera peu à peu durant le voyage. Pendant ce genre de déplacement vers votre nouveau futur, les perceptions et les sensations de l'individu séraphisé, c'est-à-dire déplacé dans l'espace-temps par son propre double ou soi supérieur, seront quasi identiques à celles que son corps possédait en troisième densité, hormis qu'il ne percevra pas la durée du déplacement dans l'espace-temps, donc du voyage en lui-même. Mais au moment de son débarquement dans sa nouvelle densité, il pourra parfois se produire des phénomènes d'interpénétration de réalité qui pourraient lui faire croire à de la folie. Vous en subissez déjà certains symptômes. Durant ce voyage dans l'espace et dans le temps, l'individu qui commencera à fusionner avec son esprit verra et comprendra tous des rouages et des forces matricielles qui manipulaient la psyché humaine en cette fin des temps. Mais pendant un certain temps, lors de ce voyage séraphique, il sera, tel les pilotes des 5 avions Avengers de l'escadrille 19, suspendu dans le non-temps pour atterrir dans un futur ressemblant à son environnement actuel, bien au-delà des événements qui font la sombre actualité de votre époque présente de 2023-2024. Comme vous le savez déjà depuis belle lurette, et nous le répétons encore pour ceux qui l'auraient oublié, ces forces corruptrices que vous appeliez antéchristiques, forces qui se déploieraient avant celles du Christ, se dévoileront au beau milieu de ce troisième conflit interplanétaire et se présenteront comme des extraterrestres sauveurs de l'humanité. Leur apparition dans le ciel est déjà prévue et inscrite dans le psychisme humain au travers de cette fameuse divulgation qui sera plus ou moins officialisée. Car derrière le voile des événements actuels, des entités maléfiques veulent détourner l'humanité de la conscience christique. Et afin de servir leur objectif, elles cherchent à s'emparer des âmes humaines. Pour mieux le contrôler, ces forces pernicieuses avaient créé en l'homme originel une structure psychologique étrangère, une sorte de doublure psychique qui, à son insu, pensait et agissait en lui, le vidant et l'essorant de son énergie émotionnelle. Pour cet homme devenu l'animal humain actuel, la seule façon d'échapper à l'emprise de cette structure étrangère à son esprit légitime d'origine est d'apprendre à percevoir toutes les influences qui manipulent sa psyché afin de pouvoir rétablir sa liberté morale et son éthique. Pour ce faire, le travail de recherche et de partage sur les émotions, tel qu'il est pratiqué par les Léos par exemple, est le moyen le plus efficace pour générer un conduit de transport séraphique tribal vers un nouveau futur. Sachez maintenant que le déclenchement officiel de la Troisième Guerre mondiale représentait le signal de départ de cette mascarade qui révélera progressivement à l'humain ignorant l'influence et l'existence de ces prédateurs transdimensionnels. Dissimulant leur plan machiavélique, ce sont ces entités prédatrices SDS de quatrième densité qui se présenteront comme les sauveurs de l'humanité. Elles exhorteront la Russie, la Chine, l'Inde et tous les autres à instaurer la paix vis-à-vis des pays de l'OTAN afin que l'humanité puisse voir en ces entités extraterrestres les sauveurs que tout le monde attendait. C'est ainsi que le piège se refermera sur ceux qui auront omis de rechercher la connaissance qui protège. Dans les religions du livre, ces événements correspondent à la moisson des âmes pour l'enfer, autrement dit, pour un nouveau cycle involutif de réincarnation. Pendant ce temps, le transport séraphique permettra à l'esprit fusionné du futur humain et à son corps physique réajusté avec ses nouveaux codes génétiques, donc un nouvel embryon d'âme adapté à la quatrième densité, d'échapper à la destruction en cours dans sa réalité astralisée en troisième densité, sans subir de charges traumatiques pour l'âme. Ce sera à ce nouvel humain d'entamer un nouveau cycle d'évolution dans les mondes de densité supérieure. Le voyage séraphique correspondrait donc quelque peu à ce que l'homme ordinaire prend pour des rêves lorsqu'il s'endort dans cet espace-temps vibratoire que représente son monde astralisé et qui lit comme sa seule réalité. Sauf que dans le concret de la vie astrale, donc éveillé et menant sa vie sur le plan terrestre, c'est le rôle du cerveau, tributaire du véhicule biologique humain, de recomposer une trame linéaire cohérente pour l'intellect avec les différents événements ayant lieu parfois sur d'autres plans de réalité. L'homme du futur qui commence à se reconnecter à l'esprit prendra peu à peu conscience de ses capacités à évoluer autant pendant le sommeil que pendant l'éveil, tout en s'autorisant des étapes initiatiques, c'est-à-dire des phénomènes de transformation, de mutation cellulaire et génétique, sans que le corps physique n'ait à souffrir ou à être mobilisé pour ce faire. Pendant son sommeil, l'humain se préparant pour son transfert devra fouiller dans ses mémoires inconscientes afin de résoudre certaines mémoires traumatiques qui, s'il était réveillé, seraient insupportables à revivre et à endurer consciemment. Un rêve correspond donc à de multiples vies réelles dans d'autres mondes dont les imprégnations se succèdent dans le cerveau, qu'elles soient du passé ou du futur. Lorsque vous rêvez, vous ne faites que visualiser les expériences et les conséquences du voyage de l'âme à travers les dimensions. Ces multiples mémoires de vie sur d'autres plans de réalité sont l'expression de ce que toutes les humanités vivent depuis la genèse des temps. Mais sachant que l'homme incarné est une entité issue du morcellement du temps, il ne pouvait pas vivre la perception de son temps, de ce dit cycle du temps actuel. Il était donc obligé de se réincarner encore et encore, parce que l'intelligence de son ego, c'est-à-dire la sensibilité et les mémoires de l'âme, restaient encore bridées par sa perception de la durée de son temps d'incarnation dans l'astral planétaire et par le manque de connaissances. L'âme est le véhicule de l'esprit qui voyage entre les mondes et dans le temps afin d'acquérir de la connaissance, de l'intelligence et du savoir qui sont les vertus de l'esprit humain. Mais l'âme est avant tout une sorte de contenant élaboré par les mémoires réincarnationnelles de l'individu, puis, à un niveau supérieur, par celle de l'humanité entière. Elle est façonnée par les mémoires de l'expérience de l'existence sur la Terre de tous les gens qui y vivent dans un corps physique. Elle peut donc être rapprochée du concept de champ informationnel ou morphogénétique. Au moment de ce que vous appelez le décès de l'individu, il se produit en quelque sorte le processus inverse, c'est-à-dire celui du déstockage des mémoires. Tout ce qui en définitive a été stocké dans l'âme, généralement un égrégore de croyances limitées à des illusions découlant de la durée d'une vie en troisième densité, submergera l'âme qui, à un moment donné, se retirera de son corps. C'est ce passage en cinquième densité, autrement dit le plan de la récapitulation, de la libération et de l'observation que vous appelez l'amour. Mais cette fois-ci, en cette fin des temps, ce passage aboutira pour certains en quatrième densité dans un nouveau monde bien réel, la vie au-delà de la mort, une vie dans un astral vibrant sur des plans supérieurs à des fréquences bien supérieures. Vous habiterez cet astral supérieur, à ne pas confondre avec le haut astral planétaire, avec votre nouveau corps d'adulte, sans avoir à passer par l'apprentissage du nourrisson, de l'enfant, de l'adolescent, qui ne sont que des étapes de réapprentissage du système matriciel proposé par l'école, l'éducation, les études, les formations propres au système terrestre. Voir à ce propos la vidéo d'Emma Cruzi, voir le lien sur notre site. Et c'est parce que l'âme se rendra compte de ce passage que l'esprit de l'individu qui la pilote redécouvrira qu'il appartenait à la famille des esprits créateurs de vie. Sachez aussi que lorsqu'un individu rêve, l'intelligence supramentale, c'est-à-dire les quelques 5% de conscience humaine non guidée par les réflexes égotiques du moi-je, n'est plus présente pour contrôler ou diriger sa vie terrestre. La faculté mentale de l'ego, ou du moi-je, représente celle qui, une fois que l'âme réintègre son corps, redevient capable d'examiner la cohérence des événements survenus dans les rêves. Ce sont donc ces 5% de la conscience de l'individu qui, lorsqu'il dort, quitte le corps. Les 95% restants demeurent accrochés au système protéique corporel dépendant du monde astralisé. Ces 5% qui coupent le contact conscient avec le corps physique provoquent alors le fait que l'ego n'est plus informé par l'intelligence analytique. Et n'étant plus informé par celle-ci, l'ego n'a plus aucune conscience de l'éventail émotionnel de la vie telle que vous la connaissez. L'ego représente donc la majeure partie de l'âme, les 95% qui se désignent par le moi-je. Ce sont d'ailleurs ces individus qui portent un prénom et qui finalement, manipulés à leur insu par les dieux SDS, s'identifient tellement à leur incarnation qu'ils finissent par jouer totalement le jeu des divinités, ces dernières n'ayant quant à elles que modelé l'homme à l'image du véritable humain galactique. Mais lorsque l'ego d'un individu n'est plus en contact avec les 5% d'esprit qui habitent le corps, notamment lors du sommeil, d'un traumatisme ou d'un accident, il est instantanément mis hors circuit ou en suspension. À ce moment-là, n'étant plus nourri ou alimenté par le corps astral, l'ego entre en contact avec d'autres réalités et réalise une extra-conscientisation. Vous appelez cela un voyage astral, un voyage de l'âme, un rêve. Vous nommez aussi cela dormir. Pendant le vrai sommeil, autrement dit pendant les phases de rêve et non pendant les phases de repos du corps, la conscience de l'ego engrange la connaissance ou assimile de la connaissance grâce à des mémoires provenant du passé futur qui refont surface dans ses rêves. Alors que l'esprit qui ne dort jamais, lui, veille et sait. L'esprit ne se repose jamais, ni la nuit, ni le jour. Il sait instantanément les choses et a réponse à tout, même dans les rêves, puisqu'il dispose d'un savoir qui ne provient plus des mémoires de l'âme, mais qui existe déjà et depuis toujours dans le champ morphogénétique, informationnel ou akashique de l'un. La fonction de l'âme est donc de décoder, de lire les fréquences d'énergie des mondes dans lesquels l'individu expérimente. Elle le décode selon sa programmation, selon son instruction, selon son éducation, et compile ainsi des expériences de vie. Alors, accumuler des expériences sous-entend en réalité que l'âme qui habite un corps n'a rien à comprendre. Car son rôle n'est pas de comprendre, mais simplement d'enregistrer des informations vibratoires. En ce qui concerne le cerveau, sa fonction est d'interpréter, de filtrer l'information, de traduire émotivement les expériences à travers les organes des sens pour que l'ego de l'individu puisse se constituer, se fortifier et devenir de plus en plus intelligent. Car c'est l'intelligence de l'humain qui croit tout savoir ou tout comprendre, mais c'est ultimement celle de l'esprit qui sait tout, qui comprend tout. Tandis que le moi-je, l'ego, voyageant sur la trajectoire du temps, ne peut voir à travers sa conscience linéaire qu'un objet ou un événement à la fois, présent dans une portion de temps très limitée. Finalement, l'esprit est capable de voir ce que voit l'ego de l'individu astralisé dans ce qu'il nomme le présent. Mais cet esprit, étant aussi omniprésent, voit et peut également percevoir des événements éloignés dans l'espace ou se déroulant plus loin dans le temps, c'est-à-dire devançant l'avenir de l'individu qui, lui, avance à l'aveuglette dans sa croyance d'un déroulement homogène et linéaire du temps. Durant l'état d'éveil, disons lorsque votre conscience égotique ou astrale reste captive de ses émotions dans une situation bien déterminée, en d'autres termes, dès que l'âme permet au système endocrinien de ressentir de la peur, de la joie, du bonheur, pendant qu'elle décode ou lit certaines fréquences d'énergie, les limites de l'intelligence de l'ego se dévoilent en s'exprimant par de l'émotionnel, parce que l'intelligence de l'ego se focalise uniquement sur la circonstance ou l'événement responsable de ses émotions. Donc, pendant qu'il ne dort pas, la part égotique de l'individu est concentrée, focalisée sur la chronologie des événements qui surgissent dans un espace-temps défini qu'il perçoit comme le présent. Parce que cette part est dominée par le mental analytique qui ne perçoit qu'un infime segment du temps. C'est ainsi que l'âme se concentre, se polarise, absorbe ou canalise l'énergie produite par la situation. Alors que dans un rêve ou dans un voyage astral, donc dans l'impossibilité de se concentrer sur un seul événement à la fois, l'âme désorientée n'exprimera pas grand-chose par l'ego qui, rappelons-le, est en suspension. Et l'ego, ne pouvant plus émettre de jugement en rapport avec ses croyances sur le bien et le mal, l'individu n'éprouvera pratiquement pas de stress en rapport à la situation et son système endocrinien ne produira peu ou pas de réactions chimiques ou hormonales. C'est ainsi que l'individu se polarisant ou se focalisant sur un seul point événementiel dans l'espace-temps ne sera capable d'émettre de jugement que selon les valeurs qu'il s'est lui-même configurées dans la matrice. Et disposant d'un cerveau et d'un ego, il émettra automatiquement ce jugement. Alors, pour résumer quelque peu la question du transport séraphique qui s'instaurera bien au-delà des aspects de l'ego humain, de son intelligence limitée et de sa science, vous avez juste besoin de savoir que ce sont des entités humaines bien plus évoluées que vous actuellement qui se chargeront de piloter votre périsprit tribal OVNI pour amener votre tribu vers sa nouvelle destination future. Mais sachez aussi que le déplacement de certaines populations d'individus encore non initiés à la connaissance sera également accompli par les engins OVNI de type Tolébolo. Ils seront pris dans le sens enlevé ou abducté par les instances SDS afin de continuer leur évolution sous l'influence de ces entités prédatrices.
Question à l'ange. Pourquoi devrions-nous être libérés de l'ego astralisé pour redevenir voyageurs temporels ?
L'ego humain génère inévitablement de l'émotionnel. Et tant que cet humain produit, vit et exprime de l'émotionnel, il vibre de l'énergie astralisée. Autrement dit, lorsqu'il exprime de l'énergie émotionnelle, il produit de l'énergie de basse fréquence qui, d'une manière ou d'une autre, affecte autrui et l'empêche d'accéder à des fréquences supérieures. L'énergie émotionnelle est l'une des composantes de l'énergie gravitationnelle qui plafonne généralement le monde de l'humain ignorant à de la colère, de la peur, des conflits, suscitant des ressentiments, de la rancune intériorisée ou refoulée, et finalement de la fausse joie et le déni de la vérité, c'est-à-dire du mensonge. En effet, si libérer de l'émotionnel permet de vous libérer des mémoires et de bouleverser quelque peu les règles de la gravitation, pleurer en se lamentant sur son sort, c'est-à-dire rester cantonné à une forme de victimisation, n'élève pas les fréquences vibratoires au point de pouvoir supporter de voir l'au-delà, de percevoir l'astral bien au-delà des mondes de la mort, au-delà des mondes que vous êtes habitué à fréquenter. Mais si vous parvenez à surpasser vos souffrances émotionnelles pour vous ouvrir au monde de l'invisible, votre intelligence égotique, même si elle n'a pas encore réussi à décoder toute la mécanique de l'âme, permettra à l'intelligence de l'esprit de maîtriser le corps. Ceci parce que toutes les mémoires de l'âme ont été instruites pendant des millions d'années, persuadant l'homme d'être incapable de croire en la magie et à l'invraisemblable. L'humain, n'ayant pas encore tiré leçon de l'évolution de sa condition d'animal humain pour devenir un véritable être humain, n'a toujours pas compris que tout ce qu'il vit en tant que souffrance sur le plan terrestre est simplement lié à ses centres énergétiques et aux sécrétions hormonales dont il ignore encore absolument tout de leurs fonctions. Il ignore que lorsque son esprit est à l'œuvre, c'est-à-dire quand la magie, il s'opère d'abord une modification dans les mondes plasmatiques. Mais comme l'ego ne croit quasi jamais à la magie ni à l'impossible, les mondes plasmatiques ne peuvent pas se densifier et devenir réels sous la gouvernance de l'esprit. Néanmoins, si pendant sa condition d'animal humain, l'individu avait pu résoudre tout ce qui, au niveau de ses sens, des trajets du système nerveux réflexe et dans les circuits de son cerveau, le maintenait dans cette condition animale, il serait réellement devenu un humain qui ne souffrirait plus, qui ne saurait même plus s'il est heureux ou malheureux. Cet individu sans conscience aurait simplement un corps qui serait encore assujetti à la vie, mais libéré des mémoires de l'âme. Il serait ce que vous appelleriez un zombie. Mais lorsque l'homme nouveau prendra la relève, cet humain du futur vers lequel vous progressez aura suffisamment développé son mental supérieur pour se libérer de son passé et s'émanciper des mémoires de l'âme. Il sera parvenu à couper tous les contacts avec ses mémoires astralisées, ses attaches à la matière astralisée, à sa famille astralisée, à ses amis astralisés. Il se produira alors une mutation par cellularisation de l'événement, une séparation par différenciation qui progressivement, par les mécanismes de l'épigénétique, transformera tout son génome. Alors peu à peu, les modifications seront perceptibles dans votre monde matériel et réel extérieur. Tous ces changements s'exprimeront dans le corps de l'homme qui, lui, manifestera ce que les anciens nommaient la volonté divine. Le rôle de l'âme humaine animale est donc de maîtriser un véhicule très très dense en matière jusqu'à ce qu'il devienne si hautement vibratoire que l'intelligence de l'esprit pourra définitivement en prendre le contrôle. Vous devez donc changer, élever votre conscience pour élever votre fréquence de résonance. Et pour que vous puissiez changer et accueillir l'esprit en vous, votre corps doit pouvoir se modifier. Pour ce faire, il doit être ébranlé, déstructuré jusqu'au niveau cellulaire. C'est ce phénomène que la science devrait appeler, non pas l'évolution de l'humanité, mais l'évolution de l'homme. C'est pourquoi l'humain ordinaire et inconscient doit subir une période de temps durant laquelle l'ego qui progresse vers la conscience se voit forcé de vivre, non pas selon ses désirs, mais selon la résonance de son esprit, qui, lui, le pousse inexorablement à la fusion avec ses pensées pour devenir réellement intelligent. L'esprit deviendra de plus en plus agissant et puissant et poussera alors l'individu à surpasser sa condition d'animal humain pour devenir progressivement le véritable humain cosmique. Finalement, si vous envisagez de redevenir des voyageurs du temps, vous devez arriver à englober, à cellulariser ce que le point de conscience concentré sur votre présent appelle le passé et un avenir plus ou moins immédiat en une seule réalité immuable et individualisée, même si toutes ces lignes de temps ont lieu sur différents plans de réalité dans lesquels d'autres parties de vous existent.
Question l'ange. Nous supposons que le phénomène de la divulgation extraterrestre planifié par les instances SDS du gouvernement secret terrestre deviendra une force de manipulation de l'esprit humain très efficace. Y aurait-il une raison à cette subite divulgation ?
La divulgation extraterrestre, ou plutôt dirions-nous l'omerta sur les réalités qui n'ont rien d'extraterrestre, a été planifiée dès les années 1940 à partir desquelles de soi-disant extraterrestres s'étaient écrasés sur Terre. Aujourd'hui encore, très peu de gens ont compris que ces soi-disant crashs de soucoupes volantes n'étaient pas dus au hasard, puisqu'ils avaient été planifiés par des entités disposant d'une conscience et d'une intelligence bien supérieures à celles de l'humain ordinaire guerrier et militaire, qui d'ailleurs, à l'époque, tentaient et croyaient les avoir éradiqués de la surface de la Terre. Ces entités esprits immortels de conscience supérieure étaient missionnés pour délivrer plusieurs messages déguisés à ceux qui, à l'avenir, se réveilleront de leurs conditions d'humains ordinaires. Effectivement, ces entités ISBI se sont réincarnées dans des corps humains. Elles sont donc bel et bien présentes au sein de la population humaine actuelle. Et malgré toutes les tentatives d'éradication de l'humain par les OGM, l'empoisonnement de l'atmosphère et la contamination de la biologie humaine par le Covid, les vaccins et tous ces génocides au niveau mondial, la génétique de cette population d'ISBI se développe dans leur désormais vaisseau humain. Après ces longues décennies dramatiques et douloureuses, vous avez cependant été en mesure de percevoir et revisiter ces périodes avec un peu plus de clarté, et ce, grâce à certaines mémoires résiduelles de l'âme et à la progression de la fusion avec votre esprit supérieur. Bien que beaucoup d'individus soient encore noyés dans leur soif de rébellion ou préoccupés à renverser la race humaine et sa société, d'autres sont encore soucieux de leur altruisme ou de sauver la Terre. Tandis que vous, vous avez en effet pu percevoir à travers ces mémoires résiduelles de l'âme des situations ou des événements qui échappent encore à tout le monde. De 1964 à 1968, d'étranges lumières apparurent dans les cieux, suscitant de la crainte ou de l'émerveillement, mais amenant les populations à envisager des phénomènes cosmiques auxquels elles n'avaient même jamais pensé auparavant. À partir des années 1970, les humains commencèrent à parler de l'ego. Cette décennie du moi-je a été suivie dans les années 1980 par celle du boom immobilier en même temps que naissait celle de la cupidité totale. Les guerres se poursuivaient de plus belle, non pas à cause des manifestations colériques d'individus, mais à cause de l'ineptie à de hauts niveaux au sein des structures militaires et gouvernementales. Très vite, l'époque de l'égocentrisme et de la cupidité devint une ère de disgrâce. À partir des années 2000, vous vous prépariez pour le début de la fin de l'ère de l'animal humain, période dans laquelle toutes les fausses réalités et les mensonges étaient censés atteindre leur apogée. Pourtant, ce n'est qu'aujourd'hui que se révèle le meilleur moment pour regarder en arrière vers ce que le New Age appelait l'âge d'or. C'est d'ailleurs à l'époque du début de cet âge d'or, que vous nommiez déjà le présent à ce moment-là, que commencèrent à apparaître dans les actualités des informations de plus en plus extraordinaires ou bizarres. Il vous a été révélé que quelque chose d'environ 27 mètres de long nageait dans le Loch Ness, ou qu'avaient été aperçus des humanoïdes poilus que l'humain appela Bigfoot. On commençait aussi à parler des phénomènes mystérieux autour du triangle des Bermudes, de la base militaire de Montauk ou de la zone 51. De soi-disant mystères qui ont pourtant toujours existé. Dès ces périodes-là, de nouvelles occurrences se produisirent à tous les niveaux de la société. Il y eut des centaines d'assassinats politiques, l'émergence de mouvements pour les droits civiques, la révolution sexuelle ou les courants féministes. La prise de conscience devint le leitmotiv de jeunes générations tout entières. La jeunesse voyageait en Inde pour y trouver des gourous, pouvant les aider à se trouver intérieurement. Une grande vague de changements balaya toute la planète. Des millions de personnes expérimentaient une sorte de renaissance religieuse, comme si une force mystérieuse englobait tout le monde pour tout changer. Dans ce nouvel âge émergent, de grandes universités dans le monde proposaient des cours sur la sorcellerie, sur les ovnis ou le chamanisme. Des millions de personnes réétudiaient leur âme tout en jouant avec des cristaux, des cartes de tarot et des mantras de méditation. Les kiosques à journaux étaient encombrés de revues New Age. Les astrologues vendaient leurs ouvrages en abondance, comme si l'excitation et les démangeaisons intellectuelles des années 1960 étaient en train de porter ses fruits ou que la race humaine était subtilement en train de changer pour le mieux. Les médiums spirituels devinrent des channels et un nombre presque illimité de nouvelles conspirations et complots diaboliques furent introduits dans la conscience collective, déjà bien blessée par toutes sortes d'illuminés et de mythomanes. L'humanité ne se rendait pas encore compte de la manière dont elle s'était fait manipuler. Elle avait tort de croire à toute cette mascarade, mais ne savait pas comment procéder autrement. De nos jours, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et autres, remplaçant les revues d'antan, continuent de propager énormément de niaiseries. Ceci étant, même si ces réseaux regorgent d'inepties, ils révèlent désormais au grand jour pour celui qui peut et accepte de les voir l'étendue de ces canulars, leur puissance et leur influence sur la psyché de l'humain ordinaire. Ces campagnes de désinformation sont mises au point et manigancées par les services secrets mondiaux tels le Cointelpro états-unien ou ses équivalents dans d'autres pays. Lorsque vous parcourez les informations publiées sur les réseaux sociaux ou d'autres médias à propos des ovnis ou de cette fameuse prétendue divulgation, vous devez garder à l'esprit que l'ufologie mondiale repose sur des facteurs psychologiques très bien perçus et acceptés pendant des milliers d'années par l'homme, mais qui l'ont entraîné dans de nombreuses et sinistres périodes sombres. Or, comme nous vous l'avons déjà précisé, pendant que cette époque traumatique touche à sa fin, et puisque vous êtes ceux que vous attendiez, vous n'aurez jamais affaire à une quelconque extraordinaire civilisation extraterrestre, vous ferez simplement face à vous-même. Transmis par Sand
et Général.